qui était dans le chat, c'est qu'est-ce que c'est qu'un métavers? C'est vrai que j'en ai parlé comme si c'était évident. Le métavers, ça n'existe pas vraiment encore. Enfin, peut-être Jean-Baptiste complètera, parce qu'il doit vous connaître les points. C'est les grands projets des GAFA actuellement, c'est de monter des plateformes ou des espaces virtuels, entièrement virtuels, où on puisse se déplacer, se promener. Par exemple, on irait faire des achats dans un magasin, mais ça serait entièrement virtuel. On pourrait toucher les objets, on pourrait les sentir, on les voir. Il y aurait même des gens qui viendraient nous parler, qui seraient en fait des avatars, en quelque sorte, et on serait comme dans un monde réel. Voilà. Ça, c'est le grand projet des GAFA. Pour l'instant, c'est casse-gueule. En fait, je pense qu'ils vont perdre des milliards, mais voilà, parce qu'évidemment, c'est un coût non seulement financier, mais c'est un coût énergétique, c'est un coût écologique qui est monstrueux. Donc, et puis, même techniquement, c'est tellement difficile que c'est pas du tout sûr qu'ils y arrivent. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des grands projets et tous les investissements, toutes les réflexions sont pour l'instant mobilisées par ça. Il faut avoir un monastère en
pensionnalité des sens et
on est complètement pris
en fait. Et donc du coup là il y avait une réunion par exemple en fait où ils vont peut-être tous en fait et bien là réunis autour d'une très belle table d'ailleurs, vous imaginez, avec un paysage magnifique, et que tout le monde en fait qu'on soit en présentiel en fait ou en distanciel, on aurait tous la même impression d'être ensemble autour de la table.
Comme dans Matrix. Mais vous pourriez changer votre corps. Vous pourriez avoir vous mettre une tête très jolie. Enfin, voilà,
vous avez déjà essayé?
Voilà.
Vrai.
Voilà. Donc on va peut-être. Maintenant, vous allez donc réagir à partir de ce que vous avez pu réfléchir dans votre groupe. On va peut-être commencer par la relation à notre corps. Je crois qu'il y avait un des groupes qui est parti sur ce thème. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous partager ou des questions? Je ne sais pas qui était le groupe qui était sur ce
thème. Je commence.
Voilà.
On s'est dit qu'il y aurait un
problème. Ah oui, j'en ai un là.
Merci. Il est allumé, là ?
Oui.
On s'est dit qu'il y aurait une nouvelle ascèse à vivre. Avant, on jeûnait sur la nourriture, sur le sommeil, on travaillait, etc. Aujourd'hui, on a une nouvelle ascèse à découvrir, une nouvelle ascèse monastique à découvrir sur le jeûne par rapport au numérique, comment le gérer, comment... voilà. Et ça, c'est un rapport au corps.
Oui. Et quand même, depuis plus de 10 ans, les lettres de carême des papes mentionne le jeûne numérique.
Oui. Entre autres, nous, dans la vie monastique, normalement, on jeûne. Hein,
oui.
Au niveau des mails, des téléphones, des choses comme ça, il y a rien, même des parloirs.
Oui.
C'est déjà donc du numérique aussi, hein, forcément. Oui.
On s'est aussi dit qu'avec le numérique, le corps devient de plus en plus source de performance, avec un objectif de performance. Par exemple, as-tu bien dormi cette nuit? Attends, je vais demander à mon conseiller connecté. Je regarde sur mon appli pour savoir si j'ai eu un sommeil paradoxal. Est-ce que tu as bien marché? Est-ce que tu as fait ton exercice physique? Je regarde mon podomètre ou ma montre connectée pour... Donc ça, en fait, ça désincarne complètement la sensibilité intérieure, le fait d'avoir bien dormi ou pas, c'est avant tout une impression
subjective,
sensorielle, des sens, même pour la promenade, etc. Et un dernier exemple qui nous a beaucoup étonné, c'est les baby trackers, donc une application qui permet aux jeunes mamans ou aux jeunes papas de s'occuper entre guillemets bien de leur bébé. C'est l'application qui dit bon, là tu dois lui changer sa couche, là tu dois lui donner son biberon parce que ça fait un certain nombre de minutes que tu n'as pas fait ceci ou cela. Donc ça interpelle beaucoup.
Oui. Et je rebondis, mais je crois qu'il y a dans l'usage de toute technologie, mais en particulier du numérique, en fait on veut un gain et pour cela on abandonne une part de sa liberté parce que finalement c'est plus sécurisant qu'il y ait quelqu'un d'autre et une machine qui, elle, ne peut pas se tromper, a priori, qui nous dit ce que l'on doit faire. Et c'est-à-dire qu'on ne veut plus prendre ce risque de la liberté. Ben, je m'occupe de mon enfant, je vais aussi faire comme je le sens, je ferai peut-être des erreurs. C'est aussi un monde dans lequel il n'y a pas d'erreurs possibles. Et donc tout doit être assuré par la science, la technologie. Et puis moi je suis frappé à Paris, beaucoup de jeunes femmes courent, hein, avec un truc sur le bras qui mesure en temps réel le nombre de grammes qu'elles perdent. Je pense que c'est ça. Quoi. Enfin, mais c'est pour dire qu'effectivement on est tracé et on se trace nous-mêmes. Sans compter les développements maintenant de la santé, on va avoir des capteurs qui vont en permanence nous dire ceci, cela. Même si, par exemple, j'ai une amie diabétique, elle a maintenant un capteur qui lui donne l'injection dont elle a besoin en temps utile. Donc, ça, voilà.
Un dernier mot sur le sujet. Et votre exemple est très bon, celui qui termine, c'est-à-dire qu'à la fois l'outil numérique est prodigieux et permet des choses extraordinaires et très positives, et puis qu'il y a aussi des limites et ce qu'on est en train de dire. Et je termine avec un dernier exemple. Ce matin, vous nous parliez de la paresse intellectuelle que pouvait générer l'usage de ces machines qui travaillent pour nous. Donc j'ai longtemps travaillé à la Sellerie, j'y travaille encore. Je suis devenue incapable de calcul mental. Parce que c'est l'ordinateur qui compte tout le temps et je ne sais plus compter. Et à la fois, ça m'amuse, puis j'apprécie beaucoup que l'ordinateur compte pour moi. Mais en même temps, ça m'effraie parce que c'est incroyable. Et quelque part, on s'atrophie. Ouais, c'est ce qu'on se disait dans le groupe. L'outil numérique nous atrophie. Alors, nous prend de notre liberté qu'on lui donne. Hein, il nous prend la liberté qu'on lui donne. Et il nous prend d'autres facultés intellectuelles. Voilà. Et en même temps, on parle d'homme augmenté. On veut être un homme augmenté, puis on accepte que l'usage de l'outil nous diminue, en fait.
C'est pour pas que la performance physique, mais je crois qu'il y a la performance intellectuelle. Parce que voilà, ce que vous oubliez, c'est qu'on a toujours besoin de tout savoir, et en fait on doit tout savoir, en tout cas on doit pouvoir en fait aussi avoir l'information de manière immédiate. C'est qu'on s'est refusé en communauté, par exemple, voilà, quand on est au café et qu'on ne sait pas quelque chose, d'aller voir, en fait, sortir un téléphone et d'aller voir en fait la réponse sur Wikipédia ou sur Google, on s'est dit, allez, c'est le droit de ne pas savoir, franchement, c'est cette capacité justement aussi à reconnaître un peu nos limites, et je crois que c'est ce que nous rend difficile en fait le numérique, c'est d'accepter de reconnaître en fait qu'on n'est pas assez, ça questionne notre puissance, moi vous l'avez bien souligné, vous l'avez bien rappelé, avec bien sûr ça peut démultiplier nos connaissances, mais ça peut aussi, je crois qu'il y a aussi le droit aussi de ne pas savoir et de ne pas toujours en fait avoir réponse à tout, et je crois que ça mobilise aussi après aussi une quête intellectuelle. Par rapport à la performance aussi physique, la connaissance du corps aussi, mais en fait de ne plus connaître son corps aussi, enfin, de plus se connaître soi-même, de plus se faire confiance, je crois que ça rejoint aussi après donc, la question de l'estime de soi. Et puis moi ce matin je parlais aussi des difficultés aussi, pour les jeunes, à être soi, mais je crois qu'en fait on peut être soi quand on est capable justement de se sentir soi-même, enfin, vous l'avez aussi pas mal évoqué dans les sentiments, mais dans une connaissance qu'on peut avoir de nous-mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui en fait tout est médiatisé justement par tous ces objets connectés qui nous disent mieux que nous-mêmes en fait ce qui nous sommes, ce que nous ressentons, notre rythme cardiaque et je ne sais quoi, c'est sûr que ça rend difficile en fait cette connaissance, la guerre intuitive et même intime aussi de soi-même. Et
puis ça nous évite de penser qu'on est mortel.
Et ça nous évite de penser qu'on est mortel, oui. Ouais.
Qu'un jour, ça fait partie de la vie.
Parce que oui, il y a toujours aussi des idées de performance, aussi, de toujours dépasser un peu ses limites. Hein. C'est un peu le risque en fait aussi
de toujours prolonger plus loin,
de toujours dépasser en fait, parce que du coup on regarde la mémoire, on a fait tel parcours en 30 minutes, et du coup la fois prochaine on espère en fait faire le même parcours mais plus rapidement, et
10 ans après,
et puis, voilà, de toujours plus en fait, toujours plus. Et...
Ou de maintenir tout ce qui est dans la jeunesse et que nous n'avons plus.
Ouais.
C'est la réalité du mortel.
Bien, on va continuer pour en revenir avec la relation au temps. Alors pour la relation au temps,
Alors la question qu'on s'est posée, en fait, c'est celle de s'interroger sur le temps passé ou perdu, mais en fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un sens où si on a des outils numériques, mais qui en fait ne sont pas adaptés à un travail, il faut parfois pouvoir aussi s'investir, passer du temps pour avoir un outil plus performant. Même si après, on peut faire quelques additions pour entretenir. Je suis aussi scénarié, donc peut-être que bon. Donc voilà, il y a des outils, enfin, il faut leur rendre dans la scénarie, la comptabilité, il y a des outils qui sont quand même plus efficaces que d'autres, on va dire. Donc ça peut, on peut gagner du temps, mais de façon simple. Voilà. Et après, dans l'autre sens, le sens négatif, et donc là, en fait, il y a besoin d'une discipline personnelle ou communautaire pour arriver à incarner la clôture. Et que si Saint-Benoît prévoit une clôture physique, c'est qu'on n'est pas tous des anges. Mais après, voilà, c'est en fonction de la communauté, en fonction des frères, en fonction des sœurs, surtout pour l'Internet. Donc, étudier une clôture numérique. Voilà, c'était surtout ces deux éléments pour éviter de perdre du temps. Parce que forcément, si chacun va chercher son information, chacun, il y a un gros risque de perdre du temps, de le détourner, au fond, de détourner ce temps de notre vocation. Et alors, en bonus, il y a une sœur, s'il y a dans des monastères, il y en a qui ont des personnes atteintes d'Alzheimer, donc il y a une thérapie très efficace, c'est de regarder des matchs de foot, paraît-il. En tout cas, sur une sœur, ça a marché. Bah, comment elle était stabilisée?
Pendant combien de temps?
Bah, le bon match de foot. à laisser, hein, pour moi.
Mais on a manqué de temps, hein.
Bah, je vois bien.
Parce qu'il y avait toute la question de l'immédiateté,
voilà.
Qui aurait été.
En fait, c'est le. Je parlais de court-circuit, hein, ça court-circuite le temps, c'est-à-dire qu'on choisit une voie facile, plus immédiate, qui sur le papier est plus efficace, effectivement, qui nous fait gagner du temps, donc on choisit le short way, et pourtant le temps n'est pas que une variable qu'il faut économiser, le temps est positif, le temps n'est pas quelque chose qu'il faut à tout prix économiser. On peut le perdre aussi, parce qu'en fait, je pense qu'on peut distinguer les deux choses, c'est-à-dire le temps dans le travail, qui nous est demandé de faire, par exemple la comptabilité ou autre, là on peut perdre du temps si on n'a pas les outils adaptés, et après quand on va chercher des informations, qui sont, c'est autre chose, on n'est plus trop dans le travail, on est plutôt dans la...
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que même dans le travail, il ne faut pas forcément tout le temps gagner du temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps du travail qui est bon.
Oui.
C'est même qui est sanctifié, d'ailleurs.
Bien sûr.
Et ce temps, c'est le temps de Dieu. Enfin, Aura et Tabora vont ensemble, quoi, il me semble. Et voilà, donc, comment ne pas rentrer dans la logique du monde économique, du monde d'aujourd'hui, où le temps, c'est de l'argent. Alors, je sais bien que vous êtes aussi dans la vie économique, mais voilà, mais c'est en tout cas le défi. Mais comment faire du temps un allié et non seulement celui qu'on va toujours vouloir gagner pour peut-être. Pour faire quoi d'ailleurs?
Oui.
En tout cas, il me semble qu'il y a un paradoxe avec le numérique, c'est qu'on veut nous faire croire en fait qu'on gagne du temps. C'est vrai qu'on peut parfois gagner beaucoup de temps parce qu'on gagne en efficacité, en rapidité. Mais le constat que moi je fais aussi, c'est qu'on perd aussi beaucoup de temps en fait sur le numérique. En fait, le numérique nous fait perdre aussi du temps. On parle aujourd'hui d'un phénomène d'accélération du temps, ça a été étudié par les philosophes, notamment les Nicolas Monde, de Frankfurt. Et je pense qu'il met ça un petit peu en avant en disant qu'aujourd'hui c'est assez paradoxal. En fait, on n'a jamais eu dans l'histoire jamais disposé autant de temps. Et pourtant, on a ce sentiment en fait de ne pas avoir le temps. Pourquoi en fait? Parce que ben, il faut expliquer, parce qu'on bon, on est la rapidité en fait et le numérique en fait rend possible beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, et du coup en fait on veut absolument tout faire, être partout. Enfin, c'est un peu ce qu'on disait, ça rejoint aussi la question aussi de l'espace. On peut être partout à la fois, tout faire en même temps. Et du coup, il y a une sorte de saturation en fait de l'expérience du temps. En fait. Du coup, on n'arrive plus à habiter ce temps, on n'arrive plus à le perdre, même gratuitement. En fait. La chose qui est un peu paradoxale. À la fois, en fait, bien sûr que le numérique nous fait gagner beaucoup de temps, et en même temps, il nous en fait perdre, et surtout nous donne le sentiment très vite que on sature. Enfin, en tout cas, c'est la grande maladie du siècle, hein, vous savez, c'est le burn-out, hein, qui nous fait tout d'ailleurs. Enfin, parce qu'on est surinvesti, on est sursollicité, on est suroccupé, et qu'on n'arrive plus justement à perdre ce temps.
Et à le vivre surtout.
Qu'on pensait gagner.
Et à le vivre. Au présent. Pour moi, c'est la différence de l'accent que je faisais entre le temps comme. Oui, le temps du vécu et le temps en coordonnées chiffrées, quoi. Hein. Il me reste une heure pour faire ça, enfin, le temps qui est comptabilisé. Mais la durée vécue, c'est tout à fait autre chose. Or, il n'y a plus de durée vécue finalement, il n'y a plus que du temps comptabilisé, le temps de l'horloge, il n'y a plus de temps intérieur finalement, qui fait qu'on travaille, mais on est présent à ce que l'on fait, et c'est ça qu'il faut à tout prix ne pas perdre, même s'il y a une pression très forte, c'est là qu'il faut être libre. On continue ? La relation à mes frères et sœurs.
Alors, on a d'abord dit que ça pouvait être source de clivage entre celles et ceux qui savent s'en servir, qui peuvent s'en servir, et ceux qui non. Par rapport aussi à l'information, donc du coup c'est un accès pour certains ou certaines plus facile, ce qui est aussi le cas dans les familles quand il faut pouvoir gérer l'accès, voilà, avec les enfants et tout ça suivant les âges, et ça donne des inégalités et qu'il faut, voilà, c'est des sujets éducatifs nouveaux qui ne se posaient pas avant, quoi. Et on se pose aussi la question de la place des jeunes en communauté, les jeunes qui entrent, qui maîtrisent ça très très bien, et que les autres sœurs viennent poser des questions et viennent chercher de l'aide auprès d'elles, alors que ça change, elles sont en formation et puis voilà. On a aussi vu le problème, ne pas être dérangé quand on est sur l'ordinateur, donc c'est l'envahissement dans l'espace-temps qui nuit à la relation véritable. Voilà, ma sœur est en face de moi en chair et en os, mon ordinateur aussi, et souvent je privilégie l'ordinateur, alors que l'ordinateur sera toujours là, ma sœur, elle va être partie. Mais voilà. Le lien aussi avec l'intériorité, ça ne nourrit pas très fort l'intériorité, ça vous l'avez bien dit. Et puis, donc, on reste dans quelque chose d'extérieur, et puis aussi, ça, autant ça peut être utile, mais autant ça peut aussi nous habiter encore par après, les images. Mais là, ça travaille, ça tourne dans la tête. C'est une ouverture sur le monde, mais ça altère la relation à l'autre. Il y a souvent, enfin, il y a les deux versants, quoi. Les critères de discernement, c'est très difficile à les poser sur la table en communauté. De cheminer communautairement ensemble, voilà, quelqu'un disait aussi que l'importance d'une parole partagée après avoir vu quelque chose ensemble. Oui, alors en communauté, on peut très bien parler de la pollution numérique par rapport à la création, mais pas la pollution numérique de nos esprits. C'est un sujet tabou, pas entendu en tout cas.
C'est bon.
Oui, moi, simplement, c'est un constat enfin, que je fais enfin, par rapport au numérique. Je crois qu'on est quand même très seul enfin, dans le pilote du numérique. Enfin, je crois qu'il y a. On est dans un. Moi, j'ai frappé de voir, on a tous un peu nos. Alors, c'est vraiment au niveau des générations. Enfin, c'est parfois très difficile en fait, d'expliquer. En fait, enfin, souvent, on voit aussi les frères viennent nous solliciter pour savoir. J'ai un problème avec. En boîte même, je ne sais quoi, quand j'étais très ancien. Bon, j'arrive pas à leur expliquer en fait, parce qu'en fait il y a un côté en fait très intuitif, il y a un côté aussi, en fait on a chacun un peu nos habitudes, enfin tout ça n'est pas forcément toujours très rationnel dans la manière en fait dont on va utiliser en fait, oui, parce qu'on a, enfin, je trouve que ça notre usage du numérique en fait, c'est une expérience qui est difficilement partageable, je ne sais pas comment dire, enfin, avec les autres, encore plus en fait quand c'est les générations qui se... Internationale. Donc il y a une dimension très personnelle, très individuelle, et de plus en plus en fait, parce que justement, avec tout le traitement des données qui sont analysées, qui sont le numérique, on fait des propositions justement, et tout est très personnalisé aujourd'hui. Un téléphone, un smartphone, c'est on peut pas le prêter à quelqu'un d'autre, hein, c'est plus prêtable en fait, parce que c'est tellement, ça dépend de nous-mêmes. En fait, c'est redoutable, hein. Donc, dans les communes, enfin, la question voilà, de la pauvreté, du partage des biens, enfin, c'est une vraie question qu'on pose en communauté. On ne peut pas partager notre ordinateur, on ne peut pas partager notre smartphone. C'est plus possible aujourd'hui. Enfin, et un ordinateur communautaire, c'est très compliqué parce qu'on a tous un peu nos habitudes, on a tous en termes de la manière dont on va l'utiliser, dans ce qu'on va regarder, dans. Donc c'est sûr que on est très seul en fait, je crois, de devant l'écran, et ça nous capte. Alors bien sûr que, comme vous dites très justement, en fait, c'est difficile en fait, quand on est devant un écran, d'être attentif en fait, à ce qui se passe, autour. D'autres qui viennent demander un service, ou simplement qui viennent poser une question, en fait, on est happé en fait, on a du mal à s'extraire. Et ça demande parfois, je pense, de mettre à distance. Bon, c'est un peu confus ce que je dis, mais
je pense que c'est redoutablement... Exact, enfin, c'est une description juste. Et ça va quand même dans le sens de l'individualisme. C'est l'outil de l'individualisme. L'individualisme aujourd'hui, c'est peut-être ça l'hérésie. Moi, je dis souvent, c'est l'hérésie ultime. C'est les dernières hérésies ne sont pas christologiques mais anthropologiques. Et l'homme est une personne. L'homme n'est pas un individu au sens d'un point isolé qui pourrait éventuellement se connecter par un réseau à différents supports d'identité. L'homme est une personne, c'est-à-dire un être de relation à Dieu, aux autres. Ça, c'est la révélation chrétienne. Et c'est une révélation qui est battue en brèche aujourd'hui par l'individualisme. C'est une sorte d'hérésie, une sorte à mon sens, de déviation de la révélation chrétienne. L'individu, c'est quelqu'un qui s'idolâtre lui-même, finalement. Parce qu'il n'est relié à personne d'autre que lui. Sauf que par lui-même, il est vide et il existe des relations qu'il va avoir avec les autres, mais quand il le veut, comme il le veut, donc il peut déconnecter quand il veut, etc. Donc il existe par rapport à des emprunts passagers, provisoires, de culture, de musique, de film. Voilà, et cet individu-là n'existe pas, bien sûr, mais c'est vers ça quand même que c'est dans cela que peut nous enfermer la pratique numérique. Parce qu'effectivement, si je ne veux pas me séparer de ce rapport qui m'est le plus propre, ça veut dire que mon plus propre, c'est quelque chose qui n'est plus intime, mais qui est la somme de ma connexion au reste du monde. C'est un peu comme ça me faisait penser aux idoles portatives que Rachel emporte du pays de son père, avec les raffines qu'on retrouve en balade avec son... Donc pour les communautés, eh bien, je n'ai pas de réponse, mais je crois que les critères, en tout cas, c'est plutôt ensemble. Alors comment est-ce possible? Est-ce que c'est possible d'avoir un dénominateur de travail ou commun pour des tâches précises et que le résultat n'est pas d'ordinateur personnel? Moi, ça me semblerait, je ne sais pas s'il faut aller vers ça, mais ça me semblerait plus naturel quand même. Mais c'est vrai qu'un portable, ça ne peut pas être un portable de communauté, je le comprends. Enfin, nous, dans la prophétie,
on a demandé aux gars de laisser leur téléphone la semaine quand ils sont à la maison, de ne pas l'utiliser. Sur les 13, dans le tiroir réservé à ça, il y a 3 portables. Donc, après, on va les aider à bouger, mais donc ça veut dire qu'ils ont un mal fou, quoi. Un mal fou à se détacher, quoi. Vous parlez, les psychanalystes parlent d'un doudou, quoi, transactionnel, je sais pas quoi.
Il y a un rapport fusionnel à son téléphone.
Ah oui.
Parce que c'est un autre soi. Enfin, c'est l'extension, même pas, c'est l'extension de soi-même, en fait, le jeu des téléphones. Enfin, on a tout, je veux dire, pour mon téléphone aujourd'hui. Enfin,
c'est le premier qu'on voit en sortant du lit.
C'est le premier qu'on voit en sortant du lit. On a toutes les informations.
C'est un grand progrès quand moi j'accompagne des jeunes prêtres et pour moi, parce qu'ils voient bien qu'ils sont très dépendants et qu'à cause du téléphone, ils se couchent à pas d'heure parce qu'ils vont regarder un truc. Et à partir du moment où ils acceptent de laisser leur portable dans leur bureau et de pas monter dans leur chambre, alors ça c'est déjà énorme. C'est un pas vers la liberté. Quoi. Pouvoir dormir sans son portable à côté. Ça c'est déjà un pas immense. Vous, je pense pas que dans les communautés, à mon avis, vous n'avez pas de portable sur votre table de nuit. Mais dans l'apostolat, forcément, on vit comme tout le monde. Donc les critères en communauté, j'avoue que ben, je pense qu'il y a quand même cette question de la vérité de la relation, de la clôture, hein, j'en parlais tout à l'heure. La clôture, elle est physique, mais ce physique, hein, c'est un espace-temps. Voilà. Et donc, tout ce qui vient de l'extérieur, il ne s'agit pas de se protéger, on n'est pas une forteresse, mais bah, on le choisit et on le vit ensemble, hein, quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, c'est une tâche, c'est une mission particulière, l'économie. Mais j'entends bien qu'entre les générations, ça puisse être compliqué. Mais par contre, je suis quand même plutôt optimiste, c'est que donc nos jeunes de cette année, en fait, beaucoup disent, mais je ne pensais pas que j'en serais capable, mais j'ai pu vivre une semaine sans portable et c'était génial. Donc, voilà, nous permettre cette expérience. Parce que si on l'a faite, et si on en a vu du bien, ça veut pas dire qu'on va vivre sans portable toute sa vie, mais ça veut dire qu'on a acquis une liberté, et pas seulement une liberté négative, mais une liberté positive, de pouvoir se dire, mais non, mais ça me fait du bien. Voilà, on continue. Il n'y a pas de réaction. On passe avec le groupe qui est en visio sur la relation à la prière.
J'ai noté les aspects positifs et puis les aspects négatifs. En positif, on a commencé par, pour certains, de dire que quand on était à l'extérieur du monastère, par rapport à la prière, on pouvait avoir l'office sur notre téléphone portable et ça pouvait être pratique. On part en voyage léger et avec tout l'office. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Mais on a noté aussi qu'on ne fait pas ça à l'intérieur du monastère. On a besoin vraiment, si on n'est pas à l'office, au cœur avec la communauté, on a vraiment besoin d'avoir nos livres entre les mains. Sinon, de façon globale, on peut utiliser le numérique pour la lectio de façon quand même assez ponctuelle, j'ai l'impression, c'est notre usage. On l'utilisera un petit peu plus pour des études, pour des recherches, parce que ça donne des facilités. Voilà, on a évoqué quelques exemples, mais voilà. Et sinon, on reçoit aussi pas mal d'intentions de prière par Internet, par des mails qu'on reçoit, des gens qui nous contactent via nos sites Internet. Alors, par contre, pour les côtés négatifs, il y a beaucoup plus de choses. D'abord, il peut y avoir un certain envahissement des téléphones portables qui abîment le silence des sœurs qui peuvent donc sonner au cœur, parce qu'on a oublié de les mettre en silencieux ou en hauteur. Là, c'est des choses qui arrivent, ou au réfectoire, enfin dans des lieux d'exercice communautaire. Donc ça demande une assaise et une attention pour celles qui ont des smartphones. Plus profondément, j'ai noté que plusieurs ont dit que ça pouvait induire de la dispersion dans le cœur et intelligence, abîmer les capacités de concentration, donc occuper l'imagination, notre monde intérieur, par les images qu'on peut voir selon le temps qu'on passe, peut-être les moments aussi. Enfin, là, je dis ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, dans nos déclarations, on a fait un ajout il y a quelques années par rapport à ces nouveaux moyens numériques, et on a dit que pendant le silence de la nuit, donc on a un temps de silence après qu'on prie et jusque le matin après l'office de prime, où on ne doit pas parler entre nous. On garde le silence est absolu. Et donc, on a dit qu'on ne devait jamais utiliser un outil numérique pendant cette plage de temps. Justement pour préserver ce silence de la nuit. Donc voilà, on a noté l'encombrement intérieur du tout de suite, du fait de la facilité. Quelqu'un a noté aussi que ça donnait un sentiment de puissance, donc ça touche aux tentations. Et le danger de se déconnecter de la vie communautaire. Bon, mais là, on était plus spécifiquement dans la prière. Wali Walou.
Excusez-moi parce que j'oublie toujours que ça sonne.
Oui, merci pour. C'est pas positif et c'est moins négatif, et ça on voit bien voilà, comment la. Je pense qu'on a quand même souligné comment le numérique va venir perturber un peu notre vie personnelle, notre vie, notre prière, notre relation à Dieu, notre relation aux autres. Et moi, je me rappelle que vous n'avez pas parlé en fait, de tout, enfin, ce qui a quand même été un événement quand même majeur au terme du confinement, tout ce qui a été retransmission en fait, des offices, des messes. Ça a boosté quand même pas mal de communautés dans ce domaine-là. Moi, ça me questionne. Et pourtant, voilà, je vois bien fait que ça a pu avoir pendant le confinement et comment ça a pu soutenir très fortement des familles, enfin, des chrétiens, apparemment, qui ont pu rester justement connectés au sens propre et au sens aussi figuré à l'Église et à une communauté chrétienne et comment c'était un vrai soutien pour traverser cette épreuve, hein, de pouvoir comme ça participer en fait à des célébrations, à des messes. On a quand même vécu aussi, comme j'ai rappelé, enfin, on a quand même vécu le Trinium Pascal confiné, donc pour beaucoup, en fait, il n'y avait pas aucune possibilité de participer à une célébration en présentiel et que ça a été pour eux déterminant de pouvoir bien vivre ce temps quand même fort de la vie chrétienne, même à distance, et vraiment en communion avec l'Église. Mais c'est pas, moi ça me pose quand même beaucoup de questions, quand même toutes ces messes qui sont, ou ces offices aussi qui sont diffusés sur Internet. En même temps, je crois que ça contribue vraiment au rayonnement de la communauté, ça nous oblige aussi à une certaine rigueur. Enfin, ça en fait, qu'on peut être regardé en fait, comme ça par des personnes. Enfin, on sait bien comment la prière des fidèles aussi peut être un vrai soutien aussi pour une communauté. Mais voilà, ça pose question. Enfin, on l'a beaucoup évoqué aussi, comment la liturgie aussi vient mobiliser nos sens, comment les rencontres très, très, très sensuelles, on peut dire, enfin, très sensibles en tout cas dans la liturgie. Et qui là, je trouve, en fait, ne transparaît pas, quand même. Enfin, ne peut pas se communiquer quand même à travers les écrans. Voilà, moi, ça me questionne. Et je pense qu'à quel point on peut faire vivre en fait, une expérience spirituelle en fait, à des personnes à travers voilà, ce que l'on peut montrer de nous-mêmes, à titre communautaire. On a quand même été loin, hein. Vous savez qu'il y a eu quand même des adorations qui ont été proposées quand même par, sur YouTube, hein. Enfin, ce qui a été jusque-là quand même. Oui, mais on pense un peu des questions psychologiques, on va pas rentrer, c'est pas le lieu. Et oui, on a quand même été très loin. Bon, il y a une question aussi voilà, qui revient un peu récurrente, voilà, de la confession ou pas. Pour moi, c'est encore une thématique. Mais voilà, justement, jusqu'où. Mais pour moi, ça rejoint un peu l'expérience de Dieu, en fait. Est-ce qu'on peut faire une expérience de Dieu sur Internet? Et en même temps, ben, j'entends aussi les témoignages de jeunes et de moins jeunes aussi, qui vraiment, aujourd'hui, leur communauté chrétienne, c'est Internet. C'est peut-être voilà que les frères, on est très investis aussi sur tout ce qui est méditation, enfin, l'annonce de la parole de Dieu, enfin, la diffusion de la parole de Dieu sur Internet avec les retraites qu'on propose. Donc voilà, je vois aussi bien fait et que pour des personnes, c'est un vrai soutien. On a toujours été quand même sensible et vigilant à ce qu'il puisse y avoir aussi après les rencontres aussi en présentiel. Bon, voilà, notre troisième question, justement, je pense qu'on peut faire vivre une expérience spirituelle et au-delà des questions aussi, comment on va dire, on peut nous perturber demain dans le spirituel, mais comment est-ce qu'on peut permettre à des personnes, via ce média, faire vivre une expérience de Dieu. C'est une vraie question.
Il me reste encore 10 minutes, je vais rebondir, ce serait bien. Je vais juste raconter une anecdote, c'est que mon beau-frère, donc pendant le tridium en confinement, me disait, parce que il se trouve que dans la paroisse, on avait une chaîne YouTube, on avait direct et tout ça. Et il disait, mais là, les ados, enfin les enfants, ils ne supportent plus, ils regardent la messe à la télé. Je disais, mais écoute, comment vous en venez à regarder la liturgie à la télé? Vous êtes, ils ont 6 enfants, vous êtes dans une maison avec un petit jardin. Je dis, bah, vous faites vous-même une vigile pascale. Il n'y aura pas d'Eucharistie, mais toi, tu es le prêtre de ta famille. Enfin, et donc, ils ont préparé une liturgie avec le feu, la liturgie de la parole, l'eau, voilà, et ils étaient hyper heureux, et toute la famille a participé, et donc, voilà. Et ce que je veux dire par là, donc moi, dans ma paroisse, c'était une source de division entre nous, entre prêtres. Moi, j'ai refusé pour ma part de célébrer la messe devant un ordinateur, une caméra, avec une église vide, parce que comme prêtre, je ne peux pas célébrer. En fait, je ne peux pas faire semblant, donc j'ai besoin d'une assemblée, du peuple de Dieu, et si le peuple de Dieu n'est pas là, ben, je ne célébrerai pas non plus, donc j'ai refusé. Et je me souviens mon curé me disant, mais tenez, on ne peut plus reculer, maintenant on a dépassé les 1000, et donc maintenant, je sais que je suis une connerie, mais on est obligé de le faire. J'ai dit, non, moi je ne fais pas. Voilà. Donc pour dire que c'est quand même des vrais enjeux. Pour moi, la parole, tous les moyens sont bons. D'ailleurs, Jésus a lui-même utilisé la réflexivité de l'eau pour parler d'un bateau, pour que sa parole se diffuse plus loin. Donc, nous, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs au début du confinement. On filmait juste les homélies qu'on mettait. Et moi, j'aurais voulu qu'on aide nos paroissiens, quitte à aller les visiter, parce que comme prêtre, on pouvait, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, on pouvait aller visiter les gens, à mettre en place des prières en famille, des liturgies domestiques. Ce qu'on a fait d'ailleurs vers le mois de mai. Donc, tout ce qui est la parole, tous les outils, je dirais, qui propagent la parole me semblent bons. Là où pour moi il y a une limite, c'est les sacrements, parce que les sacrements, ça touche le corps. Parce que donc, s'il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas d'Eucharistie, c'est tout. Je veux dire, on ne va pas faire comme s'il y avait une Eucharistie. Ce qui est différent, voyez-vous, quand on retransmet une messe sur Catéo ou Jeune du Seigneur, parce qu'on filme une vraie messe à ce moment-là. Il y a une assemblée, et même s'il n'y avait pas de caméra, la messe aurait lieu, parce qu'on va dans telle église, et on filme de manière extrêmement discrète une liturgie qui se déroule de toute manière. Mais quand c'est la caméra qui détermine la liturgie, ça va plus. Enfin, quand c'est et que le prêtre est seul et qui s'élève devant, comme un présentateur télé, devant des gens qui ne voient pas, moi j'avoue que ça, pour moi, c'était net, j'ai tout de suite refusé, et je suis peut-être trompé, hein, mais en tout cas je renvoie à un article que j'ai écrit justement à ce sujet après, dans la NRT, donc c'est l'Eucharistie en temps de confinement, la réalité du corps, où j'essaie de faire un point théologique sur cette question. Enfin voilà, mais bon, c'était une relancée de piste. C'est pas exact. Enfin, ça touche à une autre question. Oui, ça touche à une autre question. Et voilà.
C'est un beaucoup pour beaucoup.
Oui, parce que pour beaucoup de communautés, il me semble quand même que c'est aujourd'hui le même moyen qui a été utilisé ou qui va être utilisé ou qui est en réflexion pour faire rayonner justement donner un peu d'ampleur aussi à vos offices. Bon, je vous laisse, je suis désolé, mais un grand merci en tout cas pour votre journée.
Donc on dit un grand merci au frère Jean-Baptiste, ça vous dit pas.
On va juste terminer avec le dernier groupe. ma relation au monde. Voilà.
Merci.
Alors le micro.
Il y en a ici,
voilà.
Oui.
On a parlé de la création.
Ça marche pas. Non, parce qu'il n'y avait pas de groupe finalement. Mais on peut en parler, hein.
Ça va mieux marcher, c'est bon.
Donc nous, c'était l'impact du numérique sur la relation au monde. Donc comme un peu tout le monde, on a vu des aspects positifs et des aspects négatifs. Dans les aspects positifs, il y a le côté positif de retrouver la vie religieuse ou la vie monastique sur les réseaux, notamment pour les jeunes, ça leur permet de découvrir parfois des réalités qu'ils ne connaissent pas à travers des témoignages ou des partages, et que ça peut ouvrir un dialogue. Voilà, mais jusqu'où, quelle rencontre ça rend possible, ça y reviendra aussi. Ça peut aussi, pareil, on témoigne, enfin plusieurs d'entre nous parlaient de l'aspiration spirituelle des jeunes, qui n'ont pas forcément quelqu'un en face pour répondre à leurs questions, dans leur famille ou dans leur entourage proche. C'est plutôt vide. Et que bah, comme ils maîtrisent l'outil numérique, ça va être par là qu'ils vont faire une recherche et par là que des pistes peuvent s'ouvrir. Voilà, dans les aspects positifs aussi, nous avions des sœurs carmélites qui ont témoigné de l'accès à l'art que ça a rendu possible. Donc vous disiez que le numérique cassait l'art, et en fait, elle témoignait qu'avant, c'était fini pour tout ce qui pouvait être dimension artistique, hormis ce qu'il y a dans l'enceinte du Carmel, et que là, il y a moyen d'aller visiter Notre-Dame. Voilà, pareil, l'enseignement, la santé, tous ces aspects positifs qui sont des relations au monde que rend possible le numérique. On a bien sûr mentionné aussi les soucis que ça pouvait poser. Donc le côté où ça isole complètement du monde, c'est supposé relié au monde, et en fait, il suffit de prendre le métro, là il y en a qui ont passé du monde pendant le métro. Mais voilà, il suffit de prendre le métro, le train ou n'importe quel moyen de transport, ou est dans une famille, on met sur le téléphone et puis ce qu'il y a autour n'existe plus, quoi. Donc voilà, on vit dans son monde, au lieu d'être relié au monde, on vit dans son monde. Dans ce qui est relation au monde aussi, on a parlé des relations à la famille, notamment pour ceux d'entre nous qui ont de la famille qui n'est pas en France. Donc de pouvoir garder du lien avec sa famille au-delà de la visite possible de la famille sur place. Donc ça a des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est quoi le lien qu'on garde à sa famille quand on est en communauté, quelle juste mesure et tout ça. Et on a mentionné aussi le décalage par rapport au téléphone, où le téléphone peut-être nous permettait moins de maîtriser le temps qui était consacré, alors qu'un mail, une messagerie instantanée va permettre, comme le courrier, d'envoyer une information et de laisser à l'autre le temps de gérer l'information sur son temps à lui aussi. Contrairement au téléphone, on est obligé de...
Et donc c'est positif.
Oui, oui, c'est positif. Ouais. Oui, j'ai remélangé un peu. Après, dans les critères de discernement, c'est dit que ce qui était important, c'était que le média reste un média, c'est-à-dire qu'il soit, il fasse le lien entre deux personnes, donc qu'il soit au service de la rencontre. Donc que les jeunes puissent découvrir quelque chose par le numérique, mais que ça permette de rester, d'être au service d'une rencontre. Et pareil, que ça reste un outil, et pas qu'on se laisse dominer par le truc. Et on a mentionné que probablement la génération
Bah, Y, Z, alpha, enfin, les moins de 40 ans, ouais. Comme on est globalement né avec, on en a moins peur. Parce qu'on a beaucoup mentionné ça aussi entre la relation au monde et la vie monastique. C'est une grande méconnaissance des deux côtés, ce qui fait beaucoup de peur. Et que ben nous, on était de moins de 40 ans dans le groupe et on se sent une plus grande maîtrise de l'outil pour qu'il reste un outil, plutôt que les générations d'au-dessus qui, ne le maîtrisant pas, en ont beaucoup plus peur. On a du coup parlé du travail éducatif que ça a demandé, l'outil numérique dans le rapport au monde. Et que, pareil, en critère de discernement, que ça nous permette de garder une qualité de relation et une présence à ce qu'on fait. Donc qu'on ne soit pas là, mais pas dispo. Et en point final, il y a la question de l'accueil des jeunes qui arrivent façonnés par cet univers-là. Et quid si on le considère comme l'ennemi de Satan, quel rapport ça fait aussi, qu'est-ce qu'on donne aux jeunes comme retour en leur disant ce qui vous façonne, ce n'est que le mal. J'exagère un peu, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de se dire comment nous on parle suffisamment cette langue-là pour permettre un travail éducatif et pas juste un blocage qui bloque la personne qui est façonnée par ça aussi.
Si ça va au groupe.
Bon, voilà. Bon, écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Toutes les remarques sont très pertinentes. Ce qui est sûr, c'est que ça brouille quand même. Enfin, il y a quelque chose. C'est pour ça que le discernement est difficile. Hein. Ça brouille les repères. Par exemple, quand je suis dans la vie religieuse, bah, j'ai quitté ma famille. Donc, je dirais dans un monde sans numérique, il y a une réalité des lieux, qu'il y a une séparation nette, il y a une clôture qui, je dirais, est à la fois physique et spirituelle. C'est sûr que l'outil numérique, comme le téléphone d'ailleurs, brouille les relations. Donc, comment garder une relation à sa famille qui soit... qui soit ajusté, hein, qui soit quand même dans un renoncement à quitter sa famille. C'est comme d'ailleurs la distance géographique. Enfin, c'est la question de la distance géographique. Je racontais tout à l'heure. C'est pas un prêtre, c'est pas une communautaire, mais on a eu un prêtre rwandais pendant plusieurs années dans mon presbytère. Il s'est pas très bien intégré. Je pense que en partie c'était de notre faute, mais bon, ça c'est une chose. C'est pas le sujet. Mais il y a quand même le fait que moi j'avais l'appartement à côté et que tous les soirs, il passait ses soirées au téléphone avec tous ses copains de Rwanda. Est-ce qu'il était vraiment chez nous? Voilà, il était des deux côtés, quoi. Enfin, il n'avait pas fait ce que la distance géographique aurait permis, à savoir, bah, il n'est plus là, il est avec nous. Mais en fait, ne lui a pas permis, sans doute, et je comprends qu'il ait envie d'être avec ses amis chaque soir au téléphone, mais ça ne l'a pas aidé. Donc c'est ce brouillage qui me semble toujours délicat. Il faut quand même avoir des critères que vous avez énumérés, hein, qui sont donc la présence à ce que l'on fait. Ben, et la présence à ce que l'on fait, ça demande des choix. Ça demande quand même... Alors, et puis l'accueil des jeunes... Moi, les jeunes ont certes été formatés en grande partie par cet outil, mais ce n'est pas le tout non plus. Et dans les qualités qui ont été énumérées par Frère Jean-Baptiste, il y a des qualités d'une génération qui ne sont pas uniquement liées au numérique. Je veux dire, la génération ne se définit pas uniquement par cela. Moi, ce que je vois dans les jeunes que nous accueillons, c'est qu'ils sont assez... comment dire, ils ne sont pas bloqués sur leurs outils. Et ils veulent acquérir une certaine liberté. Ils voient bien que c'est quelque chose avec lequel ils ont un rapport assez habituel, enfin comment dire, assez paisible, sans doute plus paisible que les générations précédentes, mais ils sentent quand même qu'il y a une dépendance et ils sont désireux
oui, de se rendre plus libre. Moi, ça m'a frappé, surtout cette année d'ailleurs. Parce que derrière ça, ce qui se joue, et l'an dernier j'avais la difficulté, c'est de comme c'est des générations qui se sont un peu auto-construites, qui se sont auto-façonnées, qui vont un peu piocher ce qu'ils veulent, ils vont se construire un petit peu. Ils vont peut-être être un jour hyper tradis parce que tel abbé a dit je ne sais quoi, et puis le lendemain ils vont. Voilà, ils sont un peu fluides. Ils ne sont pas gender fluides, mais ils sont un peu fluides, disons. Non. Et donc, ce que je trouvais difficile l'an dernier, c'est la difficulté qu'ils avaient à recevoir, c'est ce qu'a dit le frère Jean-Baptiste, mais j'ai vraiment expérimenté, à recevoir des aînés. Et que nous puissions leur transmettre quelque chose. On sentait bien que c'était un peu à la carte. Tiens, ce que tu me dis, d'abord j'évalue. Et puis éventuellement, je reçois ou non. Il y avait le côté très, très à la carte. Voilà. Et ça, c'est une difficulté. Et en même temps, comme tout jeune, ils ont besoin de recevoir. Voilà. Donc il y a la question de l'éducation. Oui, qui passe, qui est dans les deux sens, que nous les accueillons tels qu'ils sont, mais qu'aussi nous soyons des guides, que nous puissions leur transmettre quelque chose. Voilà, j'ai pas tellement de. C'est sûr que Internet multiplie pour revenir à un autre thème qui a été abordé, multiplie les accès à l'art, à l'enseignement, à la santé. Oui, mais je dirais oui et non aussi, parce que si c'est pour me permettre d'aller un jour d'aller au musée la semaine suivante, voilà, si ça conduit à quelque chose. À une expérience réelle, entre guillemets, à une rencontre, à une visite, à quelque chose. Oui, là, ça peut être intéressant, mais on voit bien que le système ne vise pas nécessairement à cela par lui-même. Donc, il faut vraiment, pour le coup, avoir une assaise très forte, enfin, une liberté très forte vis-à-vis de l'outil. Parce que le système, lui, le système numérique, il vise à ce que nous restions en lui, quoi. Et en même temps, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur Jésus qui veut que sa parole soit transmise. Il faut bien utiliser tous les conduits pour que la parole puisse toucher une première fois. Mais ça ne pourra jamais, évidemment, rester là. Il faut qu'à un moment, la rencontre se fasse. Que Jésus ou l'un de nous, que la rencontre se fasse, tout simplement, mais des côtés. Voilà, donc, c'est ça qui est délicat. C'est que le système aurait tendance à nous entretenir. Et il ne débouche pas de lui-même sur la rencontre. C'est à nous de savoir que c'est quand même ça qui est au bout. C'est ça que nous voulons. Voilà ce que je peux ajouter, mais peut-être vous pouvez aussi réagir.
Là, tu disais, parce qu'au départ, c'est dit, je crois que les sœurs du Carmel qui ont parlé de l'art en disant que c'était un moyen de visiter, et c'est vrai que, mais nous, ça sera jamais
le musée.
Pouvoir aller au musée, ça sera jamais ça. Mais
ça sera peut-être de pouvoir peindre des fresques nous-mêmes,
ça, ou bien même au niveau de l'étude des éléments pour une étude qui va nous façonner et des éléments qu'on n'aurait pas pu avoir ou dans nos bibliothèques ou dans nos qui vont façonner quelque chose en nous.
Moi, je suis un peu dubitatif d'un enseignement sans rencontre. Mais bon, c'est peut-être mieux que rien. Mais je suis dubitatif. Je pense que parfois, il vaut mieux un bon livre, parce qu'avec un bon livre, on fait une vraie rencontre. Mmh. Paradoxalement. Ouais. Avec un livre, on rencontre un homme, une femme, un auteur. Mais voilà, ça, c'est là, c'est mon avis. Et c'est tout.
Et le livre, vous ne voulez pas le lire sur une base de données
Pourquoi pas hein. Non, mais moi, j'utilise Internet, vous savez, je ne suis pas... Mais je l'utilise à l'ancienne, c'est-à-dire, au lieu d'envoyer des lettres... D'ailleurs, j'envoie des lettres, mais j'essaie d'envoyer des... J'envoie des mails aussi, bien sûr, comme tout le monde. Je commande des livres quand même plutôt. Par exemple... Petit exemple, au Bernardin, quand nous sommes arrivés, il y a les organisateurs, enfin ceux qui ont pensé le truc, qui disent il n'y aura pas de bibliothèque. De toute manière, c'est complètement dépassé, les bibliothèques. Donc, pas de bibliothèque, parce que maintenant, tout se fait sur Internet. Donc, pas de bibliothèque. Au bout de 2 ans, on s'est dit, mais tout le monde nous dit, mais il nous faut une bibliothèque. Quoi. On a besoin de livres, on a besoin de travailler sur des tables. Et en fait, il y avait besoin d'une bibliothèque. Voilà. Et ça ne remplacera jamais. Parce que le livre, c'est une vraie médiation. Il y a une distance qui favorise la rencontre d'un auteur, d'une pensée, et qu'on peut prendre à notre rythme, on n'est pas pris par le... Enfin, pris par un livre, mais c'est un roman policier, mais sinon...
Mais je pense que c'est quelque chose qui est vu de façon communautaire. Ça a aussi un autre impact, parce qu'on peut repartager entre nous ce qui a été vu ou ce qui a été entendu.
Alors voilà. Ça,
ce qui n'est pas le cas d'un livre personnel.
Tout à fait. Mais là, on peut travailler autour d'un livre, déjà. Mais surtout, c'est vrai, et ça, c'est peut-être... Bon, les MOOC, par exemple, se développent beaucoup. L'intérêt du MOOC, à mon sens, c'est pas l'enseignement en lui-même, c'est le fait qu'en groupe, on travaille. En groupe, au monastère ou dans une paroisse. Oui, parce que là, on est sur un sujet et ensemble, on creuse, on réfléchit, on partage, etc. Mais l'enseignement ex cathedra, voilà, je ne suis pas du tout convaincu. Je pense que s'il n'y a pas la présence, bon, autant avoir un bon livre. Voilà, je pense que le livre sera supérieur à ce moment-là. Mais bon, voilà.
Peut-être une difficulté en fait avec Internet par rapport à ce que disait la sœur sur l'art. C'est qu'avec Internet, il y a une tentation très forte d'avoir une quantité d'informations très importante. Et qu'en fait, on va zapper, on va aller très vite sur beaucoup d'informations. Alors que le fait d'avoir, comme vous dites, un bon livre et des belles photos, on peut approfondir et s'enraciner davantage. C'est peut-être la difficulté à arriver à l'équilibre à trouver, c'est entre la quantité d'informations qu'on a sur Internet, quantité d'images.
C'est sûr que Internet nous jette dans un champ possible infini. Mais la vie, notre vie, elle est incarnée, elle est finie. Et c'est pas que Dieu, l'infini se donne, d'ailleurs dans la sacramentaire, se donne dans le fini. Pas parce que j'ai lu tous les livres de je sais pas quoi, non, il suffit que j'ai lu un bon livre qui m'ait nourri. Là, c'est la fameuse phrase de Saint Ignace. Ce qui compte, c'est pas d'en savoir beaucoup, mais de goûter intérieurement les choses. Donc voilà, c'est de ne pas rentrer effectivement dans ce quantitatif où effectivement on pourrait toujours aller plus loin. Il y aurait toujours autre chose à découvrir, que j'aurais pas pu découvrir sur Internet, oui. Mais après la question de fond que posait rappeler la sœur tout à l'heure, c'est que effectivement les jeunes d'aujourd'hui sont principalement sur ces lieux, alors pas que, hein, mais effectivement, qu'il y ait une parole qui les rejoigne, ça c'est l'essentiel. Pas pour en rester là, mais voilà. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'on a. On accueille chez nous là un jeune qui vient de. Qui a monté une association qui s'appelle FIDE, je sais pas si ça dit quelque chose. L'association FIDE, c'est des jeunes de banlieue, plutôt de conditions de fils, enfin enfants de parents immigrés, donc de deuxième génération, et qui veulent commenter cette association pour être présents sur les réseaux sociaux, pour annoncer le Christ, pour organiser des télés. Alors eux, ce qui est bien, c'est qu'ils sont sur les réseaux sociaux, mais ça va conduire à un télé. On va aller à Lourdes, on va. Et en fait, c'est génial parce qu'ils touchent d'abord des milieux que l'Église ne touchait plus beaucoup. Et ils sont pleins d'énergie et c'est magnifique. Et eux, ils sont sur les réseaux sociaux à fond. Mais ils y sont avec la grâce de l'orage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas asservis et qu'ils savent le faire servir à des télés, à des rencontres, à des célébrations. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc ça veut dire aussi que les jeunes générations, elles vont aussi avoir les anticorps, elles vont aussi avoir les... Voilà. Écoutez, on va arrêter là peut-être. Je sais pas ce que vous. La sœur.
Ça va, vous avez. Non, mais bien. Vous repartez avec un beau bagage de réflexion. Alors, à partager avec vos communautés. Hein. Vous ne les gardez pas tout seul pour vous, toute seule pour vous. Hein.
quelque chose que vous partagez bien avec tout le monde. Donc, comme toujours, vous l'aurez après les enregistrements, s'ils ont bien marché sur l'espace. Comme ça, vous pourrez le réécouter et en faire partager vos frères et vos sœurs dans vos communautés.
Et le PowerPoint de Jean-Baptiste, on l'aura ?
Oui, 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 on aura tout, il nous l'a donné. Puis si vous avez des questions, eh bien on les fera passer à nos intervenants. On leur enverra par mail. En espérant que tout le monde reçoive bien les infos nettes. Puisque... Alors je ne sais pas si c'est un bon ange qui empêche qu'il y ait trop de mails et qui arrête les infos nettes de Sœur Myriam, ou si c'est un petit démon qui empêche, je n'ai pas de réponse. Hein. En tous les cas, déjà je vous dis, si vous ne recevez pas des infos nettes pendant longtemps, longtemps, vous vous dites, ou Sœur Myriam est malade, ou bien c'est mon ordinateur qui ne va pas bien. Mais c'est pas possible que vous n'ayez pas d'infonet, il paraît qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu. Donc on vous remercie beaucoup, beaucoup pour ce dialogue à Bibliothèque, qui prenait deux aspects très différents et complémentaires. Et puis, eh ben, alors, au membre du CA à demain matin, et puis aux autres, et à la Fondation des Monastères aussi, tout ça on va se voir demain. Et puis aux autres, un bon retour et bonne suite jusqu'à l'Assemblée générale.